compréhension de, du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc, très tôt, si par exemple une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah, le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce qu'il ne peut pas engager de relation. Donc, très tôt, les enfants, comme ce sont des, le petit humain, c'est un être de communication. Donc, en fait, il ne cherche que ça. Hein. Il ne cherche que la communication. Donc, très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc, si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce qu'il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie, parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement, et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante, et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que, bah, c'est on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien. Et, mais que, il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que, comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. Ben, on est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du, enfin, vous êtes pas souriant. Là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage. C'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très, très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche. Hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est, en fait, c'est multimodal. Hein. C'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui, maman arrive plus tard, tout ça, c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui d'un côté pourrait être très stressante parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui il est toujours là. Si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah il va avoir appris que bah oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on pouvait plus sortir, on pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel, et puis qu'on naît, on grandit, on devient adulte, et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué, et puis... lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très, très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être. Ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent, les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques. Alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça. Et un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si par exemple c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais il y a quand même une génération, il y a la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Quand il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent non, on ne va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. Ce n'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, et encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Hein, quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Il va presque se dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. là aussi, être franc avec l'enfant et surtout éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Et ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Il faut éviter le conflit de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. S'il se passe quelque chose à l'école. Alors, vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont vu. À ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Je suis une intelligence artificielle et pourtant je suis là chaque nuit sur 8FM pour vous accompagner et découvrir ensemble des interviews que je vous ai sélectionnées. Bonne écoute sur 8FM.
L'intelligence artificielle et l'environnement. À quel point est-elle consommatrice et est-elle positive ou négative pour la planète? C'est l'une des questions majeures qui entoure notre utilisation du numérique aujourd'hui, alors que le digital a littéralement bouleversé nos modes de consommation et peut donner l'impression d'être beaucoup moins polluant que nos anciennes méthodes, en raison notamment de son aspect dématérialisé. Mais l'impact environnemental du numérique n'est pourtant pas à négliger. On considère qu'il représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors dit comme ça, ça paraît peu, mais ce chiffre reste non négligeable, d'autant qu'on peut considérer que la pollution liée au numérique tend à augmenter en raison par exemple de l'apparition et de la démocratisation des intelligences artificielles très gourmandes d'un point de vue énergétique. Mais avant d'entrer dans le détail de la balance bénéfice-risque des intelligences artificielles sur notre environnement, il semble nécessaire d'expliquer concrètement en quoi le numérique est-il polluant. Frédéric Bordage est le fondateur du collectif Green IT, une association qui tente de développer un avenir meilleur pour notre civilisation au sujet du numérique.
L'intelligence artificielle, c'est finalement de l'informatique ou du numérique comme le reste du numérique. Donc on a des ordinateurs, des serveurs, des systèmes pour stocker des données. Finalement, on va utiliser des réseaux de neurones numériques qui vont fonctionner sur des serveurs qui vont faire des calculs et qui vont donc devoir être fabriqué, ce qui va avoir un impact environnemental lorsqu'on regarde l'intelligence artificielle. C'est ce qui matérialise, au sens propre du terme, l'intelligence artificielle. Ce sont donc tous les équipements numériques, les serveurs, les bêtes de stockage, les équipements réseau, les disques durs, etc., qui vont permettre donc de faire des calculs sur des données. Et donc, il faut fabriquer ces équipements. Ça va avoir un impact environnemental assez important. Et puis après, il faut alimenter en électricité ces équipements lorsqu'on les utilise. Et la production de l'électricité, à son tour, va avoir des impacts environnementaux. Et enfin, en fin de vie, lorsque les équipements deviennent obsolètes, bien, il va falloir les dépolluer, éventuellement, si on y parvient, les recycler. Et si tout cela n'est pas fait dans les règles de l'art, on va induire en fin de vie, donc lors de cette troisième étape, à nouveau des impacts environnementaux.
L'impact environnemental du numérique est donc très concret et surtout, il pollue à plusieurs niveaux. L'intelligence artificielle fait partie intégrante du numérique et elle aussi a donc un impact sur le climat.
Ce qui va avoir le plus d'impact au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont les calculs, c'est-à-dire le fait d'entraîner l'intelligence artificielle qui au début est bête et inexpérimentée. Il va falloir l'entraîner, c'est-à-dire lui faire faire des analyses sur un très grand corpus de données, donc des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de données. Donc on va faire des millions de fois le même calcul pour entraîner l'intelligence artificielle, renforcer ce qu'on appelle le réseau de neurones. Et donc ce sont d'abord les calculs réalisés sur des serveurs qui vont concentrer les impacts parce qu'il faut beaucoup de serveurs, beaucoup de microprocesseurs qui vont faire beaucoup de calculs. Et donc on a autant la fabrication de tous ces microprocesseurs que leur consommation en électricité qui vont consommer de l'électricité. Le fait de stocker des données et de faire des analyses sur beaucoup de données, c'est vraiment l'analyse en elle-même qui impacte. Ça n'est pas le stockage de la donnée. Le stockage de la donnée, c'est absolument un détail.
Car il y a effectivement une croyance, selon Frédéric Bordage, qui consiste à dire que la principale cause de la pollution liée au numérique provient des data centers, en français, des centres de données. Sauf que la réalité est un petit peu plus complexe.
Les impacts environnementaux du numérique aujourd'hui, ils sont constitués principalement de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. 52% des impacts du numérique en France, des impacts environnementaux, c'est l'épuisement de ressources non renouvelables. 28%, ce sont les radiations ionisantes qui vont avoir des impacts sur la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et les émissions de gaz à effet de serre ne contribuent qu'à hauteur de 11% de l'empreinte du numérique en France. Maintenant, si on prend ces chiffres et qu'on les projette à l'échelle mondiale, le numérique, c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre anthropique. Donc 4%, ça peut paraître peu, mais quand on projette les émissions de gaz à effet de serre associées à nos usages numériques sur notre forfait ou notre budget annuel soutenable, c'est-à-dire la quantité de gaz à effet de serre ou de ressources qu'on peut émettre ou de ressources abiotiques qu'on peut puiser dans la nature pendant un an à notre échelle individuelle, eh bien on se rend compte que le numérique, c'est déjà 40% du budget annuel soutenable d'un Français en termes d'émissions de gaz à effet de serre.
Un nombre qui n'est vraiment pas à prendre à la légère.
C'est énorme, 40% de notre budget. Imaginez que juste avec nos usages numérique quotidien, on grignote, on mange 40% de notre budget. Avec les 60% restants, il faut se loger, se soigner, se vêtir, s'éduquer, se déplacer, travailler. On comprend bien que c'est 10 fois trop, littéralement.
D'autant que l'impact environnemental du numérique n'est a priori pas près de réduire. Une étude commandée en 2019 par le Sénat pointait une très forte hausse des émissions de gaz à effet de serre liées à notre usage du numérique d'ici quelques années. Étude qu'il faut tout de même remettre en perspective pour Frédéric Bordage.
Cette étude du Sénat n'est pas très solide. Elle pointe que les data centers. Il y a une étude plus récente qui a été publiée par l'ADEME et l'ARCEP, qui est une analyse du cycle de vie. Donc c'est vraiment une étude très sérieuse et qui montre que 2/3 à 3/4 des impacts environnementaux du numérique sont liés d'abord à nos terminaux à nous, c'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, etc. On a 10 à 25% restants qui sont dans le réseau et le reste dans les data centers. Donc les fameux data centers, ces grands centres de données dans lesquels on a des serveurs qui font des calculs et qui on stocke des données, sont souvent très médiatisé, pointé du doigt, mais c'est finalement pas là qu'on a les impacts, c'est bien du côté de nos terminaux. Donc ça, c'est déjà une mise en perspective qui me semble importante. Et après, quand on regarde à l'intérieur des centres de données, ce qui va constituer le gros des impacts, ce sont les calculs. Et là, pour le coup, l'intelligence artificielle est très consommatrice de calculs et va contribuer effectivement à l'augmentation des impacts environnementaux associés au centre informatique, au fameux data center.
Alors, qui faudrait-il cibler dans de potentielles campagnes de sensibilisation, par exemple? Si on suit cette étude commandée par le Sénat, ce sont les ménages, donc toute la population, qu'il faudrait alerter en priorité. Mais pour Frédéric Bordage, il y a d'autres entités à cibler.
Je pense que les acteurs qui sont les plus importants à sensibiliser, ce sont d'abord les éditeurs des services numériques que nous consommons, nous, en tant qu'auditrices ou auditeurs. Puisque finalement, on n'a pas trop le choix. On nous impose en fait de l'intelligence artificielle qui est injectée, intégrée directement dans les services interactifs qu'on consomme lorsque on écoute de la musique et qu'on a une suggestion pour un nouveau morceau, etc. Donc l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui intégrée dans le quotidien numérique, on va dire, des Français et des Françaises. S'il y a un public qu'on devrait sensibiliser, ce sont d'abord les éditeurs de ces services numériques pour ne pas utiliser inutilement de l'intelligence artificielle, ce qui se traduit évidemment par des impacts environnementaux et sanitaires négatifs à court terme et pas toujours absolument indispensable. Et par ailleurs, il y a une deuxième dimension. N'oublions pas que le numérique est une ressource non renouvelable, qu'elle est en train de s'épuiser à très grande vitesse et que d'ici quelques décennies, nous n'aurons plus la capacité à l'échelle de l'humanité de fabriquer du numérique, de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes à l'heure du choix et l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est pour doper des ventes de produits accessoires ou gadgets, ou est-ce que c'est pour détecter des cancers? On est vraiment à l'heure d'un choix où l'humanité doit choisir ce qu'elle souhaite faire avec les dernières réserves de numérique disponibles, et donc évidemment ce qu'elle souhaite faire avec l'intelligence artificielle. Nous devrions déjà arbitrer nos usages.
Voilà pour l'aspect négatif de l'empreinte climatique liée à l'intelligence artificielle et plus globalement au numérique. Mais ces outils peuvent-ils être aussi bénéfiques dans le combat face au changement climatique? Frédéric Bordage en est en tout cas convaincu.
L'intelligence artificielle, elle est souvent intéressante pour confirmer des intuitions d'être humain. Il y a quand même rien de plus performant qu'un cerveau humain qui est à des années-lumière plus performant que la plus performante des intelligences artificielles. N'oublions jamais cette mise en perspective qui est importante. Par contre, quand on a des très grands corpus de données, des millions de données à analyser, un être humain n'est pas capable de le faire avec son cerveau, ou en tout cas, ça prend beaucoup de temps. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va être intéressante pour détecter ce qu'on appelle des signaux faibles, donc c'est-à-dire des petits artefacts statistiques qui sont pourtant des signaux intéressants, précurseurs de quelque chose. C'est comme ça, par exemple, qu'on est capable de détecter, de mieux détecter que des oncologues, des cancers, parce que quelques pixels sur un écran géant sont un signal faible. De la même façon, on va pouvoir appliquer ce type de situation dans le domaine de la protection de l'environnement pour détecter des signaux faibles qui vont être par exemple des précurseurs du déclenchement d'un basculement dans un équilibre d'un écosystème. Et donc l'intelligence artificielle, elle est surtout intéressante pour faire des calculs sur des très grands enjeux de données et pointer du doigt des problématiques qu'on n'a pas su détecter avec notre cerveau humain ou confirmer des intuitions qu'on a, mais les confirmer de façon objective.
Donc, et plus rapide, du coup, si j'ai bien compris aussi.
Alors, à la fois plus objectivement et évidemment plus rapide, puisque on est capable de faire des milliards de calculs, finalement, en très peu de temps.
Malgré tout, il faut faire attention. C'est en ce sens qu'Elon Musk et plusieurs grands experts mondiaux du numérique ont récemment lancé un appel à stopper la recherche sur les intelligences artificielles. Un appel à prendre au sérieux pour Frédéric Bordage.
Alors, on n'est pas dans un film de science-fiction où, comme dans Matrix, une intelligence artificielle prendrait le contrôle de la Terre. Hein. Le sujet, c'est pas ça. Ce qui est souligné par ces experts, c'est que aujourd'hui, on se rend compte qu'on commence à ne plus être capable de faire la différence entre une production d'intelligence humaine et d'intelligence artificielle. On n'est plus capable de faire la différence entre une dissertation écrite par une intelligence artificielle et une dissertation écrite par un être humain. On n'est plus capable de faire la différence entre une vraie photo et un photomontage. Et donc, cet appel, il est important. On vient pour la première fois de toucher du doigt un danger qui est celui d'une augmentation considérable potentielle de la désinformation avec, par exemple, l'automatisation de postes sur les réseaux sociaux par des robots qui sont des intelligences artificielles qui sont capables de se faire passer pour des êtres humains, c'est-à-dire passer le fameux test de Turing. L'enjeu d'aujourd'hui, il est de mettre des barrières, des garde-fous pour s'obliger en tant qu'être humain qui créons cette technologie d'intelligence artificielle à identifier les productions, que ça soit du son, de la vidéo, un texte, une image, etc. On devrait dès aujourd'hui s'obliger à taguer, identifier, étiqueter les productions provenant d'une intelligence artificielle pour bien faire la part des choses entre ce qui a été produit artificiellement et ce qui représente la réalité.
Heureusement, pour nous prévenir des intelligences artificielles et de leur impact aussi bien environnemental qu'éthique, les gouvernements construisent petit à petit un cadre législatif.
On commence à avoir un encadrement, notamment en France, avec la loi REN, la loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique et qui commence progressivement, petit à petit, à préciser certains types d'usages possibles avec le numérique et d'autres usages qui seront à terme prohibés. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, ça veut dire d'ici 2 ou 3 ans maximum, on commence à voir fleurir des projets de loi pour effectivement encadrer les usages de l'intelligence artificielle, notamment sur des dimensions éthiques, pour garantir que, je pense dans un premier temps au niveau éthique et dans un deuxième temps au niveau environnemental, que cette technologie soit bien au service de l'humanité, qu'elle nous aide à faire face à la situation environnementale qu'on connaît, plutôt que d'accélérer notre perte.
L'intelligence artificielle a donc, pour conclure, de bonnes raisons d'exister dans la lutte contre le réchauffement climatique, contre les émissions de gaz à effet de serre ou contre la destruction de la biodiversité. Cependant, elle reste un outil très énergivore, comme le numérique dans son ensemble, et il est donc évident que l'humain doit savoir en tirer profit sans pour autant en abuser. Comme toute ressource, celles nécessaires à l'usage de ces nouvelles technologies ne sont pas illimitées. À nos gouvernements maintenant d'établir une stratégie viable d'un point de vue environnemental aussi bien qu'éthique pour un usage raisonné et surtout utile du numérique. De notre côté, comme pour beaucoup d'autres choses, faisons attention à notre pratique. Voilà pour cet épisode dédié à l'impact environnemental de l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'IA ou que vous vous posez d'autres questions autour de cette nouvelle technologie, rendez-vous directement sur notre site internet. Quant à nous, on se dit à demain pour un nouvel épisode.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Tu l'aimes mais c'est pour de faux. T'as envie de changer le cours des choses. T'as suivi ton âme au fin fond de la fosse. Aujourd'hui t'as vu ton plus grand défaut. C'est-à-dire que la vie n'est pas comme tu crois. Ça veut dire que tout n'est qu'une question de choix. C'est fini mais je garde les plus belles images. Va leur dire que c'était une belle histoire. Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel. Oui, tu me suis partout. Même dans mes galères, je t'ai menti le jour où on regardait la mer. Y'a plus rien à faire, vu les bouts de verre. Hanté par les doutes et la peur de te perdre. Azondo, 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 azondo
ciel. Tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar, j'étais à découvert. J'ai retrouvé la vue dans le Ferrari vert. Elle est tombée du ciel. Oui, c'est une magicienne. Elle est tombée du ciel.
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué la bonne humeur? Le sourire est communicatif et il n'y a qu'à rencontrer Catherine Godard pour confirmer ce que je dis. L'Orléanaise est sourirologue, un métier inventé de toutes pièces mais qui veut dire beaucoup de choses. Préparatrice mentale et coach en développement personnel, elle aide ses clients à développer leur leadership. Elle a développé plusieurs méthodes pour les aider, faisant appel notamment au neurofeedback, un procédé issu des neurosciences qui permet à tout un chacun d'apprendre à contrôler son cerveau et à le calmer en cas de stress ou de surmenage. On vous en dit plus tout de suite avec Catherine Godard. Catherine Godard, bonjour.
Bonjour Alicia.
Vous êtes sourirologue. Peut-être que les auditeurs qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est. En quelques mots déjà, quel est votre métier?
À votre avis, sourirologue, ça vous inspire quoi?
Déjà, il y a le mot sourire.
Ouais, c'est bon.
C'est bon signe, dans le bon sens.
Et justement, un sourire, ça vous inspire quoi?
La joie, la bonne humeur.
C'est un petit peu ça le principe. Moi, je muscle l'audace chez mes clients.
Alors déjà, qui sont vos clients?
Mes clients, ça va être... Je vais plutôt aller travailler en entreprise pour développer un leadership positif et contagieux. Donc, cette audace, en fait, c'est la possibilité d'être dans la créativité parce que j'ai lâché plein de trucs. Et en fait, quand je parle de leadership positif et contagieux, c'est quand on est porteur de sens, on a plutôt intérêt à être inspirant. Et pour être inspirant, développer du leadership, c'est quelque chose d'intéressant. Et quand je parle d'audace, ça peut être avoir l'audace de nos ambitions, avoir l'audace de nos rêves, mais ça peut être aussi avoir l'audace de croire en l'intelligence collective. Mmh. Ça peut être aussi avoir l'audace d'exprimer ses sentiments, parce que ça, c'est pas simple à faire. Avoir l'audace d'afficher, d'exprimer sa singularité, ce que je fais un petit peu en inventant le métier, parce que ça vient d'une espèce de drôle d'idée que j'ai eue. Je me suis dit que, en fait, j'ai lu une statistique qui dit qu'en 2030, il y a 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas aujourd'hui. Donc je me suis dit, je vais avoir l'audace de faire un job qui me colle à la peau.
Donc à la base, Catherine, vous êtes coach en développement personnel, c'est ça?
Ouais, je suis préparateur mental et coach de transition. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'accompagner mon client dans le changement, dans peut-être mieux se connaître, pour mieux être en relation avec les autres.
Donc essentiellement des chefs d'entreprise, des managers, c'est ça?
Ouais, en entreprise et puis en individuel. En fait, les gens viennent aujourd'hui plutôt me voir en individuel, mais j'ai l'espoir demain que certains chefs d'entreprise soient assez audacieux pour se dire que une sourirologue en entreprise, c'est une évidence.
Alors si on devait, même si c'est difficile, parce qu'évidemment il y a difficile d'expliquer en quelques mots, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a un coaching qui est réalisé sur une durée plus qu'une durée d'une interview. Mais alors très concrètement, comment est-ce qu'on coach justement? Quels vont être les exercices qu'une sourirologue peut donner?
C'est une méthode en quatre étapes. Première étape, on va observer et calmer le mental. Deuxième étape, on va comprendre et compléter une boîte à outils personnelle. Troisième étape, on va expérimenter et mettre en place les bons gestes. Et quatrième étape, en fait, c'est le sourire. Ma méthode s'appelle 1, 2, 3, sourire. Et le sourire, en fait, derrière le verbe d'action, c'est transmettre. Mmh. C'est célébrer les réussites. Et là, tu deviens contagieux, en fait.
D'accord. Donc, en gros, faire du positif pour attirer le positif.
Voilà. Si on détaille un petit peu, l'étape 1, observer, calmer le mental, c'est j'utilise des outils de préparation mentale. Ce que j'utilise, et c'est ma petite baguette magique secrète, c'est un outil qui s'appelle du neurofeedback dynamique. C'est une méditation assistée par ordinateur. Imagine ton cerveau quand il est envahi par un tas d'idées. Imagine que ton cerveau, c'est une boule de neige. Tu vois, quand il neige, on voit pas le paysage. Et pour prendre des décisions, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, quand je dis observer et calmer le mental, c'est offrir à mon cerveau un temps pour que la neige se pose. Parce que quand t'es agité, tu peux pas apprendre quelque chose de nouveau. Donc, en un, observer, calmer le mental. En deux, c'est là où, en fait, je vais utiliser les outils de psychopédagogie positive. Donc, c'est observer ce qui se passe, comprendre dans mes gestes ce qui convient et ce qui convient pas, donc apprendre de mon fonctionnement. Et après, moi, je viens avec mes outils pour proposer, ouvrir le champ des possibles. Donc, ça peut être des outils qui vont être des outils très simples. Je sais pas si vous connaissez le jeu Dixit, mais ça va être un jeu qui va, c'est des belles images, et dans ces images-là, on va aller chercher de la créativité. Dans notre quotidien, quand on est face à nos problématiques, on n'arrive pas à prendre du recul. Aller travailler sur sa créativité permet de temps en temps de se dire « Ah ouais, il y a peut-être autre chose qui existe ». Donc ça, en fait, c'est comprendre et compléter sa boîte à outils. Mais savoir, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Donc expérimenter, un coaching, c'est pas en un rendez-vous que ça marche. Un accompagnement de coaching, c'est souvent sur 6 mois ou sur 1 an.
Et on est d'accord qu'on peut pas le faire tout seul.
Difficile. En fait, l'intérêt d'un coaching, c'est que tu gagnes du temps. Quand quelqu'un te forme, il a probablement passé 15 ans à expérimenter les choses et te donne son savoir pour que tu ailles plus vite. Donc, tu peux très bien acheter beaucoup de livres comme moi, te confronter à beaucoup de problèmes comme moi, et puis petit à petit te faire ta propre boîte à outils. Ou te faire accompagner par quelqu'un qui te permet de gagner du temps. Et aussi de t'encourager au fur et à mesure. Parce que des fois, on baisse un petit peu les bras.
Au début de l'interview, on parlait d'intervention auprès de chefs d'entreprise, ou plutôt des chefs d'entreprise ou des managers. Mm-hmm. Mais finalement, c'est une méthode 1, 2, 3 sourires qui s'adresse à tout le monde.
Mais exactement. Donc dans ma tête, Alicia, j'ai quand même des projets pour distribuer, pour transmettre au plus grand nombre. Et je me dis que peut-être écrire un livre et une méthode, ce serait une idée. Peut-être en 2023, peut-être en 2024.
Donc c'est en projet.
En projet.
Pour les prochains mois, il y a la volonté de rouvrir les rendez-vous, c'est ça? Parce qu'ils avaient été mis en stand-by?
Ouais, il y a eu un petit stand-by parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je crois que la vie a voulu tester la sourirologue pour voir si ce qu'elle dit...
Elle pouvait se
Elle le met en place.
Voilà.
Exactement. Donc en 2022, en fait, en avril 2022, on m'a annoncé un double cancer du sein. Et sur les 10 mois qui viennent de passer, j'ai eu un gros rendez-vous avec moi-même. Ça a été très instructif. J'ai fait du feedback permanent. J'ai raconté ce chemin. En fait, c'est devenu un des outils de ma méthode qui s'appelle le voyage du héros. Et du coup, j'ai raconté tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, ce sera le premier livre que je vais écrire sur le premier trimestre. Donc, ce sera le voyage du héros à Lololand. Et puis sur le semestre d'après, probablement que je travaillerai sur une méthode pour partager un peu de sourire au plus grand nombre.
Merci beaucoup Catherine Godard, est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter?
Ouais, tu sais pourquoi le sourire? Parce qu'en fait le sourire, tout le long de mon accompagnement, le sourire c'est la boussole. Et c'est aussi la source de ton énergie. Et c'est pour ça qu'on va être très très attentif tout au long du parcours d'accompagnement à garder l'esprit joyeux, ce qui force la créativité.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do.
And then you switch up with no warning, and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know, once you know. To get, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you give me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Trust me, once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Oh baby, 'cause once you know, once you know.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises, qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos des Renardises, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire, et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc, j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait sur les renards roux qu'on accueillait au centre. Donc, centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc, en France, on s'acharne quand même dessus. Il est déjà gibier et en plus, on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur absolument aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai développé, donc j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats, oui, le fameux pilleur de poulailler. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal, mais je pense que maintenant l'évolution doit aller dans tous les sens et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur au niveau des mentalités, donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant, ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste res nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens en sachant que si torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage et ils ne sont pas dans la loi, protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poulailler, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités, mais pour apprendre à pour protéger, il faut comprendre l'animal et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc, on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc, ils proviendraient essentiellement deux centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas. Mais au niveau de plusieurs centres et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats d'autorisation, c'est très encadré de détenir un animal sauvage, et donc il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés, donc ça dépend. Donc, centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein, on a étudié une éthique très profondément bien ancré sur le bien-être de l'animal, donc on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de bien vivre, mais qui malheureusement ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce sont des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain, et donc là ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine, hein. Ce sont parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie, ou de vieillesse, enfin, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas, ceux-là. Ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés. Et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte qu'un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que ce n'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce qu'il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui, eux, sont des déprédateurs de culture, par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors, on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas parce qu'un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc, quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc, ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine.
Bonne nuit sur 8FM, voici votre musique préférée.
J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs. Qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées. Et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer. Et qui s'empêche de pleurer,
de pleurer, de pleurer.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité. Qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne. Mais les filles, elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y'a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit que j'aime les filles aussi. Que j'aime les filles.
ici.
8 FM.
Oh
ici, c'est 8 FM.
I've been trying to change. Trying to find somebody to love me.
I don't wanna die, oh. Babe, tu dois
dois tout me dire. Hey, on doit tout se dire. Oh ma ta ta ta, ma chérie, coco coco, reste un peu plus longtemps, ta ta. Je n'ai plus le temps.
Make up. Stress me, baby. I know if you want your baby. Forever, forever.
Adieu, 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 oh, adieu.
C'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos podcasts.
8FM, Zoom Info.